Henri de Régnier, L'Amphisbène, roman moderne, première partie. C'est après-demain le 1er janvier et j'ai eu hier 33 ans. J'aurais laissé passer inaperçu ce double événement sans la visite que m'a faite ce matin mon ami Pompeo Rinaldi, natif de Sienne et relieur de son état. Oui, sans la venue inopinée de Pompeo Neroli, j'oubliais que l'année nouvelle est sur le point de commencer et que pour la 34e fois, je vais assister à son cours, à moins que le ciel ne m'interrompe en cette occupation, ce qui en somme me laisserait assez indifférent, bien que j'aime la vie à ma façon. D'ailleurs, ma disparition hors de ce monde n'y causerait pas de grands regrets. Sauf ma mère, je n'ai guère de parents et que peu d'amis, en y comprenant l'honnête Pompeo Neroli. Ma mère ni moi ne sommes très attentifs aux anniversaires et nous ne recourons guère à ces prétextes. La tendre union de nos cœurs n'en a pas besoin. Aussi, le 1er janvier n'est pas pour nous une date particulièrement remarquable. Elle ne motive entre nous aucune manifestation exceptionnelle. Il s'ensuit donc que le recommencement de l'année ne me préoccupe pas extrêmement et que je laisse volontiers au hasard le soin de m'apprendre que le moment fatidique approche où les gens éprouvent le besoin de se congratuler de leur durée et d'échanger des vœux et des offrandes. Le plus souvent, une certaine animation des rues, la parure des magasins, l'affairement des passants suffisent à m'annoncer que le temps est venu où je dois me munir des objets, des paroles d'usage. À défaut de ces indications, les soins plus empressés de mon valet de chambre ou le sourire plus affectueux de mon concierge me rendent le service de ne pas me laisser trop ignorer ce qu'ils attendent de moi. Alors, j'obéis docilement à leur injonction et je me prépare à me soumettre sans résistance à l'annuelle cérémonie. Une dizaine de petits paquets, un dialogue avec le confiseur, quelques cartes me mettent en règle avec les exigences de la politesse et de l'année. Cependant, il y a des années, celle d'après-demain en est une, où je risquerais fort de demeurer insensible aux suggestions habituelles et où je manquerais aisément aux bienséances les plus élémentaires. Sans une intervention plus explicite du hasard, je serais fort incapable d'oublier tous mes devoirs, et je le regretterais car je ne sens aucun droit de m'en affranchir. Je ne suis qu'un monsieur quelconque et qui doit par conséquent se conformer à la discipline commune, tout en remerciant les dieux de ne pas lui avoir rendu trop pesante. Oui, oh, ne suis-je pas tout simplement un brave garçon comme tant d'autres, et même presque un vieux garçon, puisque je viens d'avoir 33 ans. D'ailleurs, je ne me plains pas de cette situation. Si elle m'astreint à quelques corvées, il en est qu'elle m'épargne. Et si elle implique certaines visites à rendre, elle m'évite du moins d'en recevoir. Le premier de l'an se passe tranquillement dans mon modeste logis de la rue de la Baume. La sonnette, ce jour-là, n'y retentit pas au point naïvement ganté de petits neveux ou des jeunes cousins venus m'apporter leurs vœux indifférents ou leurs remerciements hypocrites pour une santé dont ils s'inquiètent fort peu ou pour un cadeau qui n'est point à leur goût. Et pourtant, non, ne disons pas trop de mal des visites. Sans Pompeo Neroli, les bibelots obligatoires seraient demeurés à la devanture du marchand et les bonbons réglementaires seraient restés dans l'officine du confiseur. Les cartes n'auraient pas pris leur vol hors du portefeuille et leur destinataire n'aurait pas le plaisir d'y lire une fois de plus sur un Bristol corné le nom de Julien Delbray. Et de cet oubli, Julien Delbray n'aurait nulle excuse valable, aucune occupation sérieuse ne le soustrayant à l'obligation d'une coutume séculaire. Comme il ne remplit aucune fonction et n'exerce aucun métier, il n'a pas la ressource d'invoquer quelque affaire absorbante ou quelque travail urgent. Bien plus, Julien Delbray, en ce moment, n'ayant pas de maîtresse, il ne pouvait trouver à sa faute le prétexte toujours honorable de l'ignorance nous tient l'amour de tout ce qui n'est pas lui-même. Donc, Julien Drey aurait été seul responsable d'un pareil manquement aux lois amicales et sociales, et le pire, c'est qu'il n'en eût pu avouer la véritable cause. Comment, en effet, lorsqu'on n'a plus 20 ans, convenir que l'on souffre du vide de son cœur, de solitude, d'ennui? C'est pourtant dans une de ces méditations moroses, auxquelles je me laisse aller trop souvent depuis quelques mois, que m'a surpris ce matin mon valet de chambre Marcellin. Marcellin est un serviteur intelligent. Il a tous les défauts de sa condition, mais il a une qualité rare et qui le rend précieux. Il excelle à décourager les importuns. Il comprend fort bien que, pour ne rien faire, on ait besoin de tranquillité. Il se rend compte qu'il n'est amusant de fureter dans une bibliothèque, de feuilleter un livre, de regarder des gravures, de déplacer et d'assortir des bibelots, que si on est sûr de n'être pas dérangé. Il sait que, pour fumer avec agrément un paquet de cigarettes, il faut un loisir assuré. Aussi, quand il me voit livré à quelqu'une de ses occupations, ou même lorsqu'il constate que je me borne à rester étendu sur mon divan, en faisant passer devant mes yeux les images de ma rêverie, il est plein de respect pour ma paresse et ne souffrirait pour rien au monde qu'on la troublât. Par contre, Marcellin déteste le spectacle démoralisant de la mélancolie, des sombres pensées et des regrets inutiles. À ces moroses chimères, il est impitoyable et il leur cherche obstinément une diversion. Il ne tolère pas que l'on s'y abandonne et il emploie tous les moyens de les disperser. À ses fins, oh, il est d'une ingéniosité et d'une astuce admirables. La diversité des ruses qu'il invente est incroyable. Il mêle les plus sournoises aux plus naïves. Ses expédients vont du bavardage le plus intarissable au nettoyage les plus bruyants. Lui qui, d'ordinaire et silencieux, jacasse alors sans mesure et sans répit. Il claque les portes, ouvre les fenêtres, remue les meubles, vient demander des ordres inutiles et rapporter des réponses à des questions imaginaires. Une fois même que la tristesse où il me voyait lui était trop insupportable, il est allé jusqu'à me casser un vase de Chine. Oh, et ce n'est pas tout encore. Marcellin, dans sa serviable haine contre la mélancolie, se porterait aux dernières extrémités. Il en arrive ainsi à oublier ses principes les plus sacrés. Il n'hésite pas à introduire auprès de moi les raseurs les plus avérés et les quémandeurs les plus hontés. Ma colère lui semble un dérivatif. Il est sans pitié pour mes humeurs noires. Mais cette fois, je n'ai pas eu à me plaindre de lui. Il est parvenu à me distraire sans m'horripiler. J'avais eu cependant quelque méfiance en le voyant ce matin ouvrir la porte de ma bibliothèque d'un air patelin et satisfait. Heureusement, je me trompais dans mes prévisions. Marcellin venait seulement m'annoncer que M. Pompeo Neroli souhaitait de moi un moment d'entretien, et cette nouvelle me fut plutôt agréable. J'ai de la sympathie pour ce brave petit siennois. Il est toujours accompagné dans mon souvenir des belles images que j'ai conservées de sa ville guerrière et féodale, de sa ville au dur palais et aux fraîches fontaines, où j'ai été jadis presque heureux. Et Pompeo Neroli bénéficie de ces circonstances déjà lointaines. C'est à elle qu'il dut les petits services que j'eus plaisir à lui rendre quand il vint chercher du travail à Paris. D'ailleurs, Pompeo Neroli mérite l'intérêt qu'il m'inspire. Il est habile dans son métier et ne manque pas d'un certain goût. Certes, je n'aurai peut-être pas toute confiance en lui pour ce qu'on appelle maintenant des reliures d'art, mais il excelle à vêtir un volume d'un bon parchemin souple ou à le couvrir de ses papiers aux couleurs vives et aux dessins amusants qui font de gentilles robes aux ouvrages que l'on veut habiller à peu de frais. Ses reliures sans prétention, Pompeo Neroli les réussit fort bien. Aussi me fut-il facile de lui procurer quelques clients, de telle sorte que le brave garçon me considère un peu comme son patron et son protecteur. Ce sentiment, du reste, ne va pas de sa part sans quelque familiarité, si bien que Neroli n'hésite guère, lorsque le travail lui manque, à venir me demander si je n'en ai pas à lui donner, ce qui ne l'empêche pas de l'abandonner avec un aimable sans-gêne pour satisfaire à des tâches nouvelles et plus urgentes. Tel est Pompeo Neroli, et il faut le prendre comme il est. Sans doute, il venait aujourd'hui chez moi pour chercher de l'ouvrage, et quand Marcellin m'annonça qu'il désirait me parler, je tournai machinalement les yeux vers le rayon des livres brochés pour y chercher ceux que je pourrais bien lui confier. Pompeo Neroli a ses privilèges, et moi j'ai un faible pour mon siennois. Je me trompais. Neroli ne venait pas solliciter une commande. Du reste, il n'était pas en costume de travail et il était vêtu avec plus de soin qu'à l'ordinaire. Décidément, depuis un peu plus d'un an que Neroli a quitté Sienne, il s'est parisianisé. Il ne garde plus guère d'italien que ses beaux yeux noirs et caressants dans une figure intelligente et contractée. Sans la cravate cocasse et multicolore qui serre le col de sa chemise et qui me rappelle celle que l'on peut admirer aux devantures milanaises, florentines ou vénitiennes, Neroli n'aurait presque plus rien de transalpin. Car Pompeo Neroli parle fort bien le français. On dirait qu'il l'a appris en quelque sorte par contagion et que le contenu des livres qu'il relit s'est communiqué à sa cervelle. Les mots français y sont logés comme des abeilles dans une ruche. Aussi fut-ce en excellents termes que Neroli, une fois introduit par Marcellin dans ma bibliothèque, m'exposa le but de sa visite. Neroli prenait prétexte de la fin de l'année pour venir m'exprimer sa reconnaissance et m'adresser ses vœux et ses remerciements. Grâce aux clients que je lui avais procurés, ses affaires prospéraient. Les premières difficultés vaincues, il gagnait maintenant honnêtement sa vie et il tenait à m'en dire toute sa gratitude en y joignant ses souhaits de bonheur et de santé. Tout en parlant ainsi, Pompeo Neroli dénouait la ficelle d'un assez gros paquet. Y parvenant difficilement, il la coupa avec ses dents de jeune loup, puis il débarrassa l'objet des papiers qui l'enveloppaient. Je le regardais faire avec intérêt, car je comprenais que Neroli allait joindre à ses paroles un petit présent d'amitié, et j'avoue que cette attention me touchait. Mais le cadeau de Neroli était de conséquence, et je le vis me tendre d'un geste gracieux un fort volume relié en parchemin. À cette vue, je m'exclamai avec une surprise à demi-feinte. « Comment, Neroli, c'est pour moi ce beau volume? Oh, ça c'est gentil !» Neroli s'était mise à rire. Oh, « Permettez-moi, monsieur Delbray, de vous offrir ce modeste souvenir. J'ai bien pensé à relier pour vous quelques experts de Dante ou de Pétrarque, mais je me suis dit... « Oh, monsieur Delbray aime trop à lire pour ne pas aimer aussi à écrire. Alors j'ai trouvé mieux de m'enfermer sous couverture que des feuilles blanches. Comme cela, vous mettrez dessus ce que vous voudrez. Oh, j'espère beaucoup de bonheur et de plaisir. » J'ai secoué vigoureusement la main de Pompeo Neroli et nous avons causé quelque temps très amicalement, après quoi Neroli a pris congé. Grâce à lui, je savais que l'année nouvelle commençait le surlendemain et que je venais la veille d'avoir 33 ans. Je demeurais en outre possesseur d'un cahier de beau papier blanc relié en parchemin, fermé par des cordonnets de soie et dont les plats formaient, gravés en noir sur la peau fauve, l'un la louve qui sert d'emblème à la ville de Sienne, l'autre un bizarre serpent à deux têtes, ailé d'un fort bon aspect ornemental, et que l'ingénieux Néroli avait dû emprunter à quelque antique figure de bestiaire. Eh bien, chose singulière, il me sembla que ce cahier blanc ne sera peut-être pas pour moi de ces objets inutiles que l'on relègue dans un coin et auxquels on ne touche jamais plus. Je lui trouve au contraire, je ne sais quoi d'opportun. Il y a en effet dans la vie des moments de solitude et de réflexion où l'on a besoin de voir clair dans ses pensées et d'occuper ses incertitudes. Pourquoi le cahier de Néroli ne me rendrait-il pas le service de m'aider à surmonter cette période de trouble, d'ennui, d'oisiveté sentimentale, de dépression morale dont je souffre actuellement? Certes, je ne veux pas dire que les 300 pages de Néroli vont faire de moi un écrivain et un auteur. Non, non, je n'ai pas l'intention de presser la tétine de la louve littéraire. Elle dévore les imprudents. Je n'ai non plus aucune envie de me laisser emporter par le vol du serpent ailé et bicéphale qui orne la reliure de mon siennois et qui peut, à la rigueur, symboliser la poésie. J'aime trop les livres pour ne pas me sentir incapable d'en faire un. Et cependant, il y a dans le fait d'écrire une satisfaction et un soulagement que je ne nie pas et que j'ai éprouvé comme d'autres. Quelquefois déjà, j'ai confié ma pensée au papier. J'ai tenté de la formuler avec des mots. Si je fouillais dans mes tiroirs, j'y découvrirais bien quelques anciens griffonnages dont les feuillets jaunis attesteraient la date déjà lointaine. Mais pourquoi n'essaierais-je pas de reprendre cette habitude? Le gros cahier de Néroli m'y invitait, alors j'ai obéi. 3 janvier 1900. Depuis 3 jours, j'ai employé la plus grande partie de mes journées à des courses indispensables. Me voici donc en règle avec autrui. Par un hasard dont je ne me plains pas, je n'ai rencontré aucune des personnes chez qui je me suis présenté. Cependant, j'eusse aimé à serrer la main de Jacques de Bergy. L'absurde mélancolie à laquelle je m'abandonne depuis 2 mois m'a fait négliger cet ami, qui est un ami charmant. Aussi ai-je ressenti que de déception quand le domestique m'a dit que M. de Bergy restait absent. Mais au bout d'un instant, cette déception s'est changée en plaisir. Jacques de Bergy ne quitte son atelier et ne s'éloigne de Paris que lorsqu'on lui s'appelle une nouvelle passion. Car dès que Jacques change de maîtresse, son premier soin est de mettre la clé sous la porte et d'aller se terrer quelque part pour un temps plus ou moins long avec l'idole du moment. C'est dire que Jacques de Bergy ne choisit guère ses maîtresses que dans un monde où les femmes jouissent d'une entière liberté et peuvent suivre sans contrainte leurs caprices les plus soudains. En effet, je n'ai jamais connu à Jacques de liaison mondaine. Il n'aime que ce qu'il nomme les indépendantes. C'est chez lui plus qu'un goût, c'est un principe, et il le justifie par des considérations qui n'ont rien de déraisonnable. L'amour, selon Jacques de Bergy, est une occupation qui exige de ceux qui s'y livrent tout leur temps et toute leur attention. Il demande autant de continuité que de liberté. Pour aimer agréablement, il ne faut avoir rien à faire d'autre, qu'on ne soit ni attaché à des convenances, ni soumis à des devoirs. Il faut pouvoir se donner à l'amour entièrement. Ce n'est qu'à cette condition que l'on y trouve un plaisir véritable et complet. L'amour a besoin de ses aises. Tout ce qui l'entrave, l'interrompt, le rend furtif et intermittent, est contraire à sa vraie nature. L'amour est égoïste. Il ne souffre aucune circonstance qui le contrarie. Cette conviction bien arrêtée chez Jacques de Bergy l'éloigne de toutes les femmes à qui leur genre d'existence ne permet pas d'aimer à leur guise et qui subordonne leur passion à des considérations étrangères. Quelque adroite qu'elle puisse être à éluder les entraves familiales ou mondaines, Berger ne les admet pas à lui prouver leur habileté. Il écarte systématiquement de sa vie sentimentale ou sensuelle toutes celles qui ne sont pas en situation de satisfaire ce qu'il attend d'elles. Il s'adresse ailleurs et s'en vante. Jamais je ne l'ai vu faire la cour à une femme mariée. Berger n'a aucun goût pour désunir les ménages, ni même pour profiter de leur désunion, et il lui est arrivé de se dérober aux avances les plus marquées. Il dit volontiers qu'il n'a que faire d'une maîtresse obligée de combiner son existence en partie double, quand il y a tant d'aimables filles libres de leur temps et de leurs actes, et qu'il ne demande pas mieux que de se conformer à des habitudes auxquelles il entend bien ne pas renoncer. D'ailleurs, par le métier qu'il exerce et par le genre de vie qu'il mène, Jacques de Bergy est fort bien placé pour ne point manquer d'occasion à mettre en pratique ses théories. Sculpteur de talent et noctambule convaincu, il fréquente le milieu le plus propice à ses aspirations. Bohème élégant et viveur aimable, il a un pied dans le monde des arts, un autre dans celui de la galanterie. Dans tous deux, il rencontre en abondance ces indépendantes qu'il prise tant et qui lui paraissent réaliser la perfection dans l'amour. Elles ne demandent pas mieux que d'accueillir un garçon gai et vigoureux qui, sans être riche, peut néanmoins à l'occasion se montrer gentiment serviable. Mais à quelque catégorie qu'appartienne la personne sur laquelle Jacques de Bergy jette son dévolu, il procède toujours avec elle de la même façon. Après les ententes préliminaires, Jacques de Bergy, un beau jour, laisse là sa glaise et son ébauchoir et disparaît de Paris pour un temps plus ou moins long en emmenant sa nouvelle conquête. Généralement, cette fugue ne dure guère plus d'un mois ou 6 semaines, pendant lesquelles personne n'entend plus parler de lui. Après quoi, on le rencontre un soir au théâtre ou au cabaret, vous vantant les agréments de la forêt de Fontainebleau, des petits ports normands ou bretons, ou de quelques points particulièrement pittoresques de la Côte d'Azur. Quant à la compagne du voyage, il n'en est pas plus question que si elle n'avait jamais existé. Et cependant, l'aimable Jacques de Bergy est loin de faire un secret de sa méthode, s'il est peu bavard au sujet de la personne qui lui a servi à l'appliquer. Bien au contraire, il discute volontiers de ces questions quand on va le voir à son atelier de l'avenue des Ternes, ou dans la fumée des cigarettes, les petites figurines qu'il modèle avec un art charmant, disent son goût voluptueux et patient de la femme. Alors il ne vante pas seulement l'agrément de son système, il en proclame la sécurité. À l'entendre en effet, ce qui favorise le mieux les attachements dangereux pour la liberté qu'un homme doit toujours tâcher de garder, ce sont les difficultés que ces attachements rencontrent, ou à leur début ou au cours de leur durée. La contrainte et les empêchements piquent au jeu notre vanité. Il en résulte que nous risquons de nous prendre de passion pour les objets de notre fantaisie et que nous leur demeurons liés, même quand cette passion est fort décrue et que nous en devions convenir. Il arrive ainsi que nous nous obstinons sur un malentendu qui a souvent beaucoup de peine à se dissiper et dont nous souffrons, sans nous en rendre compte exactement. C'est à ces inconvénients que remédie, selon Jacques de Bergy, la possession rapide, complète, libre à toute heure et à tout moment de la personne que nous désirons. Grâce à ce procédé, rien ne vient fausser la notion de sa valeur amoureuse. Tout en l'appréciant à son prix, nous n'y apportons point de surenchère. Nous évitons la duperie fâcheuse à laquelle sont trop enclins les amants et qui les amène à une mutuelle équivoque souvent prolongée en pénibles débats, aucun des deux ne voulant convenir de son erreur. Donc, en abordant l'amour avec netteté et en le traitant avec réalisme, il y a champ de s'épargner bien des ennuis, sans compter qu'une saine appréciation de l'amour n'empêche nullement de jouir de ce qu'il a d'agréable ou d'intense. Et d'autant, ajoute Jacques de Bergy, que cet agrément et cette intensité ne sont pas faits pour durer. Laisser à ses vraies ressources, dépouillé de ses 20 mirages, il s'épuise assez vite. Une femme n'est pas matière à sensations infinies. Il y a entre toutes les femmes de telles ressemblances amoureuses que l'on a assez vite goûté les particularités que chacune d'elles nous peut offrir. De plus, l'amour ne saurait être un état continu. Ce n'est dans notre vie qu'une série de crises momentanées auxquelles il convient de ne donner dans notre existence que la place qu'elle mérite. Eh bien, ces propos de Jacques de Vergy me revenaient à l'esprit en sortant de chez lui. Ce sont peut-être des paradoxes, mais jusqu'à présent, Vergy a conformé sa conduite scrupuleusement, si scrupuleusement même qu'il est parti, il y a quelques jours, pour une de ses fugues coutumières. Certes, je suis assez son ami pour lui souhaiter, dans ce déplacement galant, tout le plaisir possible. Cependant, je l'avoue, j'ai été contrarié de trouver sa porte close. J'aurais aimé à passer aujourd'hui une heure ou deux dans son atelier. Ce n'est pas pourtant que Vergy soit toujours un causeur disposé au bavardage. Souvent, il est taciturne et distrait, mais ses silences mêmes ont leur charme. Je sais d'ailleurs qu'il ne manque point qu'on l'importune. Il me l'a dit plus d'une fois. Ma présence ne trouble ni son travail ni sa rêverie. Nous demeurons l'un en face de l'autre à fumer, lui accroupi sur son divan, moi allongé dans un fauteuil à bascule. Quand il travaille, ma venue ne l'interrompt pas, car il sait que j'aime à le voir travailler. Tantôt il couvre d'esquisses de grandes feuilles de papier gris, tantôt il modèle, dans la glaise ou la cire, quelques figurines. Je le regarde faire et je me tais. La blancheur de l'atelier, aux murs passés à chaud, sa large haie vitrée, à travers laquelle se répand la lumière, me procure une impression de repos que je ne trouve pas chez moi dans mon logis, trop plein de mes pensées ordinaires. L'atelier de Jacques de Bergy est un lieu calme, retiré, où il me semble que je m'oublie un peu moi-même. Et puis il a encore pour moi un autre attrait. N'est-ce pas là que son nez, sous les doigts habiles du charmant modeleur qu'est Bergy, les innombrables petites figurines nues ou drapées, élégantes ou malicieuses, naïves ou mystérieuses, où il renouvelle l'art des anciens, choroplastes, ces statues exquises, ces délicats bas-reliefs d'un art si gracieux et si personnel? Certes, beaucoup ont quitté l'atelier natal, mais il y en a toujours là quelques-unes qui attendent, sous le linge humide qui les recouvre, la dernière retouche qui leur donnera la perfection définitive et parachèvera la vie secrète qui les anime. Eh bien oui, aujourd'hui, j'aurais voulu soulever le voile de ces petites inconnues et, de l'une d'entre elles, faire la compagne de ma rêverie. Dévêtue, j'aurais admiré son corps fragile et souple, puis je l'aurais, à ma guise, habillé, j'aurais enroulé à ses hanches et à sa poitrine d'onduleuses étoffes disposées en plis harmonieux. J'eusse, à son cou et à ses bras, passé des colliers et des bracelets, et coiffé sa petite tête avec tous les artifices auquel s'adapte une chevelure. Douce et savante, elle se fut prêtée à tous les jeux de ma fantaisie. J'aurais caressé ses épaules, touché son pied délicat, sa gorge ferme. J'aurais partagé son rire. Et puis elle m'eût confié ses pensées et raconté son histoire. Ou bien j'eusse imaginé sa vie à mon gré. Quel plaisir de lui attribuer des sentiments, de lui inventer des passions, des regrets, des chagrins et des joies, tout en nous promenant dans quelques campagnes solitaires, d'un caractère plutôt attique, parmi le frisson des peupliers et le murmure des platanes. Nous aurions connu l'heure par l'ombre tournante des cyprès. Nous nous serions assis sur des tombeaux et nous aurions bu à des fontaines. Les cailloux de marbre auraient roulé sous les semelles de cuir de ses sandales. Nos pas eussent marqué sur le sable des plages leur empreinte alternativement égale. Nous nous serions arrêtés pour voir le coucher du soleil, et nous serions rentrés à la ville au moment où s'allument les premières étoiles. Doucement, elle aurait ouvert la porte de sa maison, et nous nous y serions assis côte à côte, puis elle m'aurait montré ses bagues, ses peignes, ses miroirs, et j'aurais essayé d'y lire sa destinée. Mais, hélas, la porte de l'atelier de mon ami Jacques de Bergy était close, et aucune des petites figurines d'argile qui vivent dans leur gracieuse beauté n'est venue m'ouvrir. Aucune ne s'est glissée au dehors pour m'accompagner. Il faisait d'ailleurs bien froid pour qu'elle s'aventure par les rues, et je suis rentré seul chez moi, où j'écris ceci, tandis que le vent d'hiver siffle intermittent et narquois, comme s'il voulait railler ma rêverie. 5 janvier. Il faisait ce matin un admirable temps d'hiver. À mon réveil, le ciel était si pur, si bleu, l'air si transparent, la lumière si neuve, le soleil si jeune, qu'instinctivement j'ai ouvert ma fenêtre. Soudain, la vivacité du froid m'a repoussé. Le froid, même le plus beau, a quelque chose d'hostile. Il écarte de lui, tandis que la chaleur nous attire à elle. La chaleur s'unit à nous en un contact intime. Le froid ne fait que nous environner. La plus radieuse journée d'hiver conserve je ne sais quoi de distant, de lointain. Plus tard, elle vit dans notre souvenir, sous une sorte d'émail translucide. Le plus clair visage de l'hiver est toujours aveugle et muet. Il nous regarde sans nous voir et ne nous parle pas, et cependant son aspect communique une sorte d'allégresse. Et cette allégresse s'est traduite en moi par un besoin de mouvement. Pour rien au monde je ne fusse resté à la maison, même si quelque occupation importante m'y eût retenu. En des jours comme aujourd'hui, j'éprouve un brusque désir d'activité physique. Si au lieu d'être un citadin, j'étais un campagnard, il me semble que je ferais seller un cheval et que je partirais au galop pour respirer à pleine gorge l'air lumineux et glacé. Des idées d'exercice violent me traversent la cervelle. J'aimerais suivre quelque chasse hurlante et brutale, ou bien, sur un vaste étang glacé, d'écrire de rapides circuits de patineurs. Mais, hélas, depuis mes modestes exploits de collégien au manège, je n'ai ni tenu la bride, ni chaussé l'étrier, et je serais fort embarrassé si je me trouvais sur le dos d'un cheval. De même, je ferais piteuse figure sur la glace d'une pièce d'eau, et je risquerais fort d'y donner le spectacle de quelques belles culbutes. Mes patins sont accrochés dans le passé, à côté de ma cravache de cavalier, et il est plus prudent de laisser en paix cette panoplie et de me contenter d'une longue promenade à pied par les rues. C'est à ce parti que je me suis arrêté. J'ai annoncé à Marcellin que je ne déjeunerais pas et qu'il pouvait disposer de son après-midi. Il a accueilli cette nouvelle avec une satisfaction respectueuse. Depuis quelques mois, Marcellin me trouve pour son goût trop casanier. Sa liberté se ressent de ses habitudes, non pas que Marcellin fasse grand usage de cette liberté, car quand je m'absente, il reste le plus souvent à la maison, mais l'idée que je n'y suis pas lui est agréable. Il ne dépend plus de mon coup de sonnette. Il est tranquille. À quoi s'occupe sa tranquillité ? Pouf, je l'ignore. Sans doute Marcellin poursuit quelque humble rêve. Qui n'a les siens ? Une fois dehors, je me suis demandé comment j'emploierais ma journée. Soudain, la pensée m'est venue d'aller la passer à Versailles. Je prendrai le train à la gare de l'Alma et je déjeunerai au réservoir et ensuite une longue promenade dans le parc. Ce froid clair, cet air léger et élastique seraient délicieux sur la terrasse de l'orangerie et le long du grand canal. Certes, c'est à l'automne surtout que j'aime Versailles, lorsque novembre dort les feuillages et noue sur les bassins de fleurantes guirlandes. Comme l'on y respire cette odeur de terre humide, d'eaux immobiles, de feuilles mortes, d'une si puissante mélancolie, lorsque le pas que l'on entend derrière des charmilles semble le pas même du souvenir et de la destinée. Mais en hiver aussi, Versailles a sa beauté. Ses jardins dépouillés ont je ne sais quoi de systématique. On en découvre les raisons d'être architecturales. La sombre rigide des futaies fait mieux ressortir leur grandeur ordonnée. Dans le froid, les bronzes semblent contracter leur emphase décorative. Les marbres frileux prennent des formes plus nettes et plus précises. Si le murmure des pas sur les feuilles mortes est une enivrante musique de mélancolie, le heurt des talons sur le sol durci sonne aussi de fiers échos. Et puis, rien ne vaut peut-être la solitude hivernale du parc quand les derniers rayons du soleil caressent les statues refroidies. Et le palais, comme il devient léger en sa pierre frigide et comme cassante. Les grandes vitres des fenêtres émettent de la lumière gelée. Je songeais donc à aller renouveler mes images du Versailles d'hiver, et c'est dans cette pensée que je descendais l'avenue d'Antin. Au rond-point, je me suis arrêté un moment. Les quatre bassins étaient couverts de glace. Soudain, cette vue m'a rappelé une certaine promenade à Versailles, un beau jour de janvier comme celui-ci. Le froid était extrêmement vif cette année-là, et comme il durait depuis plus d'une semaine, le grand canal était pris. Je me souvenais que je m'en étais aperçu encore dans le train, et je revoyais les deux jeunes filles qui étaient montées dans le compartiment où je venais de m'installer. Elles étaient charmantes, 18 ou 20 ans, et coquettement habillées. De gentilles toques de fourrure les coiffaient. Elles portaient au bras des patins d'acier qui figuraient le double croissant de ces jeunes dianes parisiennes. Elles allaient à Versailles pour patiner. Elles parlaient entre elles du plaisir qu'elles se promettaient, des amis qu'elles devaient retrouver. Elles citaient des noms. Leur mère, une vieille dame à cheveux de neige, souriait, tandis que de temps en temps, sur le tapis du wagon, frémissaient leurs petits pieds impatients. Parfois, les patins qu'elles balançaient tintaient avec un bruit clair, argentin, aigu, avec un bruit de jeunesse et de gaieté. J'aurais voulu les suivre sur la glace argentée, comme elles y glissaient dans l'air vif. Et je me disais tout bas, « Laquelle des deux m'attacherais-je ? Oh, l'aînée, la plus jolie, la plus jeune, a bien de la grâce. » Et j'étais hésitant et incertain quand le train s'arrêta en gare. Les deux voyageuses avaient prestement sauté sur le quai. Trois jeunes gens les attendaient. Il y eut des poignées de main, des rires rapides et frais. Les patins tintèrent de nouveau, et la bande joyeuse disparut. Que Versailles était beau ce jour-là, et pourtant il n'avait pas sa grande solitude mélancolique. Le patinage y avait attiré trop de monde. Versailles n'était pas le lieu noblement désert qu'il est habituellement. Trop de promeneurs dans les allées, trop de curieux au bord du grand canal. Les bons Versaillais s'étaient réunis en foule pour admirer les ébats des patineurs qui évoluaient en nombre sur la vaste étendue miroitante. Il n'y faisait pourtant guère bon effet. On aurait dit un essaim de mouches noires sans ailes. Il aurait fallu là des costumes éclatants et bigarrés. Nos sombres vêtements modernes manquent trop de pittoresque et de couleur. Leur triste uniformité était encore plus sensible dans ce beau décor opulent et calme. Et puis, parmi tous ces patineurs, si quelques-uns montraient de l'élégance et de la virtuosité, beaucoup n'étaient que des apprentis et des lourdeaux. Leur inexpérience et leur gaucherie provoquaient l'hilarité des spectateurs qui s'amusaient de leurs chutes grotesques et de leurs attitudes maladroites. Cette vue me donna quelque mauvaise humeur. En vain, je cherchais mes jeunes filles et leurs compagnons. Ils s'étaient sans doute dispersés et s'exerçaient plus loin. Aussi eus-je bientôt assez de ce spectacle sans grand intérêt. Heureusement, il me restait la beauté de l'air et du ciel, et je me dirigeais vers des parages moins fréquentés. Si le grand parc était trop populeux à mon gré, par contre, celui de Trianon était presque désert. Cette solitude se sentait dès l'abord, et j'en eus l'impression à peine franchi la porte qui donne accès dans les jardins. Ils étaient ce jour-là étonnamment silencieux. Ils environnaient de leur vide le palais muet. L'hiver y avait je ne sais quoi de définitif. Les arbres semblaient nus à jamais, les bassins gelés pour toujours. Pas un promeneur, pas un gardien. J'étais le seul passant qui se fût hasardé jusque-là. Seul un vieux chien rôdait mélancoliquement. À ma vue, il prit peur et s'enfuit. Trianon était vraiment à moi. Personne n'apparaissait au bout des allées droites. Déjà, le soleil déclinait. Le froid devenait plus solide. L'air était comme gelé autour des choses. Ce fut au moment où la vieille horloge du palais sonnait 4 heures que ma promenade me ramena sur la terrasse qui domine la croix du Grand Canal. Le soleil avait disparu. Le crépuscule venait rapidement. Sur la large étendue d'eau glacée, un dernier patineur s'obstinait. L'heure tardive semblait surexciter son ardeur. Il était d'ailleurs fort habile et il patinait avec une remarquable dextérité. À un moment, il se rapprocha assez pour que je reconnusse un des 3 jeunes gens qui attendaient à la gare les jolies parisiennes. Seul maintenant, il se livrait avec frénésie à son agile passe-temps. Il s'enivrait solitairement de vitesse et de mouvement et profitait éperdument des dernières minutes de clarté. Et toujours, il allait vertigineux et sûr, presque indistinct dans le crépuscule où il n'était plus qu'une ombre errante et passionnée. Ah, comme il était significatif et symbolique, cet inconnu! On eût dit qu'il suivait à la piste une trace perdue et qu'il voulait à tout prix retrouver. Il semblait chercher à découvrir sur cette glace perfide et polie le nœud compliqué de quelques problèmes dont il inscrivait en arabesque et en volute le mot énigmatique. Il l'encerclait de ses courbes souples. Tout à coup, il paraissait avoir trouvé et filait en ligne droite sur un point imaginé. Puis il s'arrêtait, déçu, et repartait en longs élans désespérés. Soudain, il semblait savoir, mais sa conjecture le ramenait d'où il s'était élancé, et j'entendais dans le silence gémir le cri d'argent de ses patins. Et l'heure le pressait. Maintenant encore, il avait à ses talons le divin talisman, mais bientôt, quand la nuit serait tout à fait venue, il ne serait plus qu'un infirme piéton. Eurydice, Eurydice, comment aller vers vous sur l'autre bord de ce stribon glacé? Penché à la balustrade, j'assistais à un drame éternel et mystérieux. Cet humble patineur n'était-il pas le symbole de l'âme humaine qui se cherche éperdument dans une autre? Ne figurait-il pas à mes yeux le tourment éternel de l'amour? 6 janvier. Est-ce que monsieur déjeune ce matin à la maison? Évidemment, Marcellin avait besoin de sa journée. Je n'ai pas eu le courage de le décevoir. Que m'importe, ici ou là, je souffre de la même inquiétude et de la même mélancolie. Ma promenade d'hier à Versailles en fut la preuve, et je n'aurai qu'à noter d'amères rêveries. Et quand on est ainsi, à quoi bon écrire ses pensées? C'est en redoubler l'amertume. Peut-être ai-je vécu trop seul depuis quelques mois. Aussi, à la demande de Marcellin, l'idée m'est-elle venue d'aller retrouver au restaurant Foyot M. Feller, qui déjeune à peu près tous les jours depuis 40 ans. La compagnie de ce pittoresque vieillard me distrait. J'aime sa conversation malicieuse, abondante en anecdotes caustiques, son sourire sceptique, son accent tudesque. Je l'ai vivement goûté du jour où Jacques de Bergy m'a présenté à lui. Le père de Jacques de Bergy est un des plus vieux amis de Feller, et c'est Feller qui a dressé le catalogue de sa collection de médailles grecques. Arrivé chez Foyot, j'ai cherché en vain Feller à sa place accoutumée. Elle était occupée par une jeune femme qui découpait prestement une tranche de jambon. Évidemment, Feller ne devait pas venir aujourd'hui. Le garçon me renseigna. M. Feller était à l'enterrement du baron Dumont de l'Académie des inscriptions. L'absence de M. Feller ne m'étonna plus. Je le connaissais assez pour savoir que rien au monde ne lui fait manquer cette cérémonie. Le baron Dumont était sa bête noire et, tout en m'asseyant à une table, je me remémorais quelques-unes des historiettes plutôt piquantes que Feller débitait volontiers sur celui qu'il appelait le baron. Le baron, son infatuation, ses colères, ses naïvetés, était un sujet sur lequel Feller ne tarissait pas. Je comprenais pourquoi Feller avait rompu ses habitudes. Elle lui compose une vie singulière, et je pensais à la bizarre existence de ce vieillard sans famille, qui ne sort guère de chez lui que pour ses travaux et qui, la plupart du temps, dédaigne de les publier. Malgré cette méprisante négligence, Feller jouit dans le monde savant d'une considération universelle et craintive. Sa merveilleuse érudition y fait autorité. De cette autorité, Feller n'a voulu tirer ni honneur ni profit. Tout à sa passion exclusive, il a retranché de sa vie toute préoccupation étrangère à ses études. Elle lui procure des satisfactions spéciales, et il semble être insensible à nos joies, aussi bien qu'à nos chagrins et à nos soucis. Et cependant, avant d'en arriver à ce détachement absolu, il a dû connaître nos anxiétés et nos tourments. Étrange bonhomme, a-t-il souffert, désiré, regretté, aimé comme nous? Tout en réfléchissant, je regardais la jeune femme assise à la place de M. Feller. Je ne distinguais pas son visage, mais sa tournure élégante me frappa. Elle avait fini de déjeuner et, lentement, elle remettait ses gants. À un mouvement qu'elle fit, je jugeais qu'elle était sur le point de se lever. Puis elle se ravisa et but une gorgée d'eau dans le verre à demi plein posé devant elle. Je la considérais avec plus d'attention. Elle semblait hésiter. Soudain, elle se décida. Toute sa personne disait une résolution nette. De quoi s'agissait-il pour elle? Vers quelle action importante ou futile se dirigeait-elle en quittant le restaurant? Que se passait-il dans la vie de cet inconnu dont je n'avais même pas vu distinctement la figure sous l'épaisse voilette qui la dissimulait et sous le grand chapeau qui l'abritait? À quels événements était-elle mêlée? Était-elle préoccupée d'ambition, d'intérêt, d'amour? Que de fois n'ai-je pas cédé au plaisir d'imaginer des existences et de les mêler à la mienne? Que de fois j'ai joué au jeu décevant et passionnant des conjectures? Que de fois je me suis intéressé à des visages entrevus et ai-je tâché d'interpréter leur destinée secrète? Souvent même, il me semblait que ces rencontres ne devaient pas finir là, et que ce n'était entre moi et ces passantes ou ces passants qu'un premier contact du hasard. Et cependant, jamais encore ces pressentiments ne se sont vérifiés. Jamais une de ces rencontrées n'a reparu dans ma vie. Ce qui se produit dans les romans ne m'est jamais arrivé, mais mon goût pour ces suppositions imaginatives n'en a pas diminué. Malgré tout, je reste sensible à ces appels. Et quelle ville plus propice que Paris à ce jeu ? Il n'est pas de jour où l'on ne croise dans la rue quelques-unes de ces figures captivantes. C'est même pour moi un des derniers attraits que m'offre Paris. Je n'aime ni son architecture ni ses couleurs, mais j'y demeure toujours sensible à la multiplicité passionnante des visages, à ce flot de destinées qui circule continuellement. Lorsque j'eus achevé mon repas, je m'aperçus qu'il était près d'une heure et demie. La salle du restaurant était presque vide. Au lieu de demeurer là à rêvasser, n'eût-il pas mieux valu profiter du beau soleil d'hiver? J'ai appelé le garçon, réglé ma note, et je suis sorti. Le froid vif et clair m'engageait à aller faire un tour au Luxembourg, mais avant de gagner le jardin, je voulais rôder un instant sous les galeries de l'Odéon. En passant devant l'affiche du théâtre, j'y jetais machinalement les yeux. Le programme de la semaine n'annonçait rien de bien attrayant, mais en matinée, on donnait aujourd'hui l'Étourdi de Molière et les Atrides de Maxence de Gordes, précédés d'une conférence de Lucien Gernon. J'ai lu les ouvrages de Gernon et j'ai souvent entendu parler de lui par Feller, qu'il admire tout en ne l'aimant guère. Comment diable Gernon avait-il accepté de devenir conférencier et par quel sortilège l'astucieux Antoine était-il arrivé à le déloger de son trou de hibou pour l'exhiber au public derrière les chandelles? Hein, si Feller avait été chez Foyot, il m'aurait expliqué ce mystère. En tout cas, c'était bien là une idée d'Antoine. N'a-t-il pas annoncé que les représentations de Turcaret seraient accompagnées d'une causerie de Meyersen, le financier bien connu, que Polyeucte serait commenté par l'abbé Géry, récemment condamné en cour de Rome, et que le Cid serait précédé du harangue militaire du général Renoux? Telle est sa manière de redonner de l'intérêt aux classiques. Il a peut-être raison, car moi qui vais rarement au théâtre, je suis entré à l'Odéon. Je ne sais si c'est à cause du beau temps qu'il faisait dehors, mais la salle était loin d'être pleine. Le public y était même assez clairsemé. Par contre, il m'a paru excellent ce public, attentif, complaisant, docile. Il y avait là beaucoup de jeunes filles et de jeunes gens, des couples de bons bourgeois, des dames seules, mais respectables, de vieux messieurs. Tout ce monde s'est fort amusé à l'imbroglio moliéresque. Il faut croire que Molière porte en lui-même sa vertu comique, car les comédiens ne faisaient guère valoir le texte. Ils étaient remplis de bonne volonté, mais pour la plupart manquaient complètement de talent. Tous ils ignoraient, à un point touchant l'art, de réciter les vers. Néanmoins, je ne me suis pas ennuyé à cette parade. On éprouve toujours, enfin du moins pour ma part, un certain plaisir à voir des gens vêtus de costumes bariolés, portant perruques et justes au corps, recevoir des nasardes et supporter des coups de bâton. C'est un spectacle qui nous change agréablement dans notre vie moderne, si monotone, si compassée. Et les spectateurs semblaient s'en fort divertir. J'entendais des rires dans la salle, qui ne mettaient pas une très bonne préparation aux Atrides de Maxence de Gordes et à la conférence de Gernon. Je n'avais jamais vu Gernon et je ne le connaissais que par ses photographies. Elles ne donnent pas du tout l'idée de ce qu'il est réellement. Rien de plus drôle que de le voir à sa table de conférencier, entre sa carafe et son verre d'eau. Il y apparaissait vraiment minuscule, avec sa petite figure ratatinée comme une pomme de rainette, ses yeux trop clairs dans sa face de cuir rose. Il portait un habit d'une coupe vraiment extraordinaire et avait au cou une sorte de cache-nez fait d'une bande de satin noir doublée intérieurement d'une maigre fourrure. Le drap de son habit était tellement râpé et aminci qu'on craignait qu'il se déchirât au moindre de ses mouvements. Géron n'avait l'air nullement embarrassé de cet accoutrement, ni de ce public nouveau pour lui, car il y a loin de la salle de l'Odéon, au réduit de l'école des études grecques, où Gernon fit longtemps son cours de mythologie hellénique devant de rares auditeurs. Il est vrai que depuis quelques années, ses leçons sont plus suivies. Aujourd'hui, Gernon connaît cette célébrité tardive que Paris donne parfois sur le retour à ceux qu'il a trop injustement méconnus. Gernon accepte volontiers cette aubaine de gloire inattendue. Cela ne lui a pas fait modifier son existence. Il habite toujours son galetas de la rue Descartes, où il vit confiné l'hiver avec sa fourrure au cou, et où il reçoit des intervieweurs entre son caniche Léo et son perroquet Babylas. Il porte toujours les mêmes vêtements râpés et en toute saison son immuable chapeau de paille. Il devait l'avoir laissé au vestiaire avec son Macfarlane. Malgré la bizarrerie de son aspect, le public a fait à Gernon un accueil chaleureux. Il y a répondu en dodelinant sa petite tête ratatinée et grinchue, car on dit qu'il n'est pas bon. Cela s'est vu du reste dans sa conférence. Après avoir expliqué brièvement le sujet des Atrides de Maxence de Gordes, il en est vite arrivé à leur auteur. Maxence de Gordes et Gernon se sont beaucoup connus, mais cette longue liaison a dû accumuler bien des rancunes dans le cœur de Gernon, à en juger par le portrait qu'il a tracé de son ami. Si ce n'est pas une tortue que Gernon a laissé choir sur le crâne eschylien de Maxence de Gordes, c'est une pluie de petits cailloux épigrammatiques. Gernon semblait s'amuser à ce jeu dont la malice était assez peu comprise du public. La méchanceté de la plupart des traits lui échappait. Néanmoins, il applaudit le conférencier et le rideau se leva sur l'admirable tragédie. Dès les premiers vers, de par leur couleur et leur sonorité, on se sent transporté dans l'antique barbarie des vieux âges. Peu à peu, la brutale fresque tragique se déroule sous nos yeux. L'acropole se remplit de clameurs et l'on entend gronder les lions de marbre qui en gardent l'entrée. Le choc des armes retentit. Des voix astucieuses et rudes échangent des propos subtils et brusques. Tout à coup, le glaive frappe. Un cri parricide tord une bouche furieuse. Une plaie béante laisse couler un sang noir. Et de la mare fumante naissent les érinies vengeresses, larves funestes de la fatalité, miasmes empestés du destin. Quand je suis sorti du théâtre, il faisait nuit. Les réverbères étaient allumés. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai repensé à la jeune femme qui déjeunait foyot. Où était-elle maintenant? Vers quelle aventure douloureuse ou cruelle, sensuelle ou tendre, était-elle partie de son pas délibéré? Quelle expression avait à cette heure son visage à peine entrevu? Dormirait-elle seule cette nuit ou reposerait-elle au bras d'un amant? J'avais relevé le col de mon pardessus et j'allumais une cigarette. Comme je descendais les marches du péristyle, je reconnus Gernon qui filait à petits pas, dissimulé sous son Macfarlane, avec son cachetet de fourrure et son éternel chapeau de paille. Il semblait s'échapper de l'Odéon comme un rat furtif, content d'avoir grignoté quelques figures de haute lice.